Le jury de Rodez a couronné son recueil « La nuit parle » et lui a attribué le prix Antonin Artaud. Je n'ai pas besoin de rappeler à nos auditeurs ce qu'est ce prix Antonin Artaud, car nous en avons parlé déjà bien souvent. Et à partir de Rodez, c'est un véritable rayonnement poétique qui s'exerce grâce à Antonin Artaud, grâce également au second prix qui est décerné, celui-là, vous le savez, sur manuscrit et non pas sur texte publié, le prix Hilary Wouranka. Eh bien, Louis Guillaume, depuis La Nuit parle, qui est, je rappelle, de 1961, vous avez publié plusieurs plaquettes, je vois ces différents titres, Le vent pour mort, Plage, Bonheur. Vous avez publié également quelques maximes et pensées de Chateaubriand, et nous voici maintenant devant Fortune de vent. Fortune de vent, qui a paru récemment à la librairie José Corti, un livre dans lequel, je crois, vous avez repris un certain nombre de vos poèmes antérieurs.
J'ai repris des poèmes écrits avant mon séjour à Biarritz, des poèmes qui parlaient surtout de la mer, du souvenir que j'avais de la mer habitant Paris, et en arrivant à Biarritz, j'ai écrit depuis 2 ans une série de poèmes qui parlaient de l'océan, et je les ai joints à ces poèmes antérieurs pour former Fortune de vent.
L'océan pour vous, est-ce l'océan de Bretagne ou l'océan de la côte basque?
Je dois avouer que j'ai été un peu dérouté en arrivant à Biarritz. La mer pour moi, c'était un peu la mer, M.E. accent grave et re. Ça avait quelque chose de maternel. C'était une île, c'était un archipel, c'était grouillant d'algues, de crustacés, de bateaux, de coquillages. Et au premier abord, en arrivant à Biarritz, je me suis trouvé devant quelque chose de beaucoup plus noble, de beaucoup plus réservé et mystérieux. C'était quelque chose de masculin, c'était l'océan. Et j'ai eu beaucoup de mal à m'y adapter. Et puis petit à petit, je me suis fait à cette noblesse réservée qu'était l'océan, les bateaux passant très au large, la plage étant déserte, sans algues, sans coquillages. Et ma foi, je crois que j'ai réussi à faire une espèce de liaison. Maintenant, je me trouve à mon aise au bord de cet océan qui devient petit à petit ma mer.
Ce qui explique le choix des titres de vos recueils, comme Le rivage désert ou Pleine absence, comme on dit, pleine mer.
Oui, c'est tout à fait exact.
Et il y a aussi un noir comme la mer.
L'encre de lumière, oui.
Oui. Noir comme la mer, c'est un peu la coloration de la mer bretonne que je voyais dans mon enfance, une mer un peu sombre, avec des tempêtes, des nuits où sonnait la corne de brume, et quelquefois même le bateau de sauvetage qui partait au large. J'étais réveillé par ces tempêtes.
Et tout ce que vous dites pourrait laisser penser que la mer est au centre de votre inspiration poétique. Il me semble cependant que dans les différents recueils que vous avez publiés depuis le tout premier, Occident, qui date d'avant la dernière guerre, je pense, il y a d'autres formes d'inspiration. Il y a une inspiration tirée de la vie de la forêt, par exemple. Il y a également quelque chose de plus secret, dont nous avons d'ailleurs parlé à ce micro. Il s'agit de Hans ou les songes vécus, que vous avez appelé roman et que j'appellerais plutôt recueil de poèmes en prose.
Oui, au fond, ce n'est pas un roman, c'est une suite de rêves.
Oui.
C'est une vie rêvée, pour employer presque l'expression de René Dicadou, que j'ai bien connu. C'est une suite de rêves qui retrace une vie et même une survie pendant laquelle le réel et l'imaginaire, le rêve et la veille se sont sur le même plan et se mélangent complètement.
Nous sommes très indiscrets en ce moment car nous demandons à un poète la définition de sa poésie et je crois, Louis Guillaume, que c'est vous-même qui dites que vous vivez la poésie. Alors, comment peut-on parler de la poésie avec un certain détachement lorsque l'on vit la poésie?
Évidemment, c'est très difficile. On ne peut pas dire que l'on fait un poème volontairement. Ce poème vous est dicté par une suite de rêves, par un état, et ce n'est pas pour ainsi dire de la littérature. C'est la transcription de paysages que l'on a à l'intérieur de soi-même. C'est comme si on se regardait dans un miroir, n'est-ce pas? Comme si l'on poursuivait son reflet.
Et alors, où commence la littérature?
Mais pour moi, je crois qu'il ne doit pas y avoir de littérature. Non, je ne pense pas que la poésie, c'est le contraire de la littérature.
Il y a dans votre poésie des images qui sont des images de songe, des images de rêve. Il y a cette évocation de l'infini, la mer, le vent, et en même temps quelque chose de très actif. Il y a des images qui se mêlent, des images très précises. Vous parlez de sang, vous parlez de chair, en même temps que d'infini. Alors, quelle est la signification de ces interférences?
Eh bien, la poésie doit être à la fois très spirituelle et très concrète. Je pense que la poésie se dégage des objets, des choses, et que c'est au lecteur d'apporter le grain de poésie. Mais le poète propose quelque chose une image concrète, quelque chose de vrai. Comme disait Saint-Martin, le philosophe inconnu, ce qui est moins près de nous que ce qui n'est pas.
Ainsi, vous admettriez très facilement une poésie qui, à la façon de Rimbaud ou d'Apollinaire, soit une simple énumération de « il y a ». Il y a telle chose, il y a telle chose.
Pas tout à fait.
Il y a quand même
un côté incantatoire qui doit exister, et je ne serais pas breton si cela n'existait pas.
Chez vous, il y a « j'ai vu ».
Oui.
J'ai vu dans un des poèmes de votre dernier recueil, « Fortune de vent ».
Oui.
Un poème d'ailleurs qui, à mon point de vue, résume les intentions de Hans ou les songes vécus. Je ne sais pas si je me trompe, j'ai beaucoup aimé votre roman, et j'ai retrouvé le climat de ce roman à l'intérieur de ce poème.
Ce poème est un véritable paysage, vrai, qui est loin, et on se rapproche petit à petit, n'est-ce pas?
J'aimerais que vous le lisiez, si vous voulez.
Volontiers. J'ai vu sortir de la mer des chevaux pétris d'écume, sans cavalier, sans fer, portant l'icole de Guémont. J'ai vu gisant sur la grève des guerriers sans armure, sans épée, dont il ne restait plus que la place creusée dans le sable. J'ai vu celle qui les attendait sourire à travers la pluie. Elle se mariait avec les pins, leur cœur battait sous l'écorce. J'ai compris ce que tous disaient, les coursiers, les morts, les silencieuses. J'ai vu tournoyer leurs paroles avec de grands claquements d'ailes.
Oui, Jacqueline Bellas, vous rapprochiez ce poème de Hans ou les songes vécus. Je crois qu'il serait peut-être nécessaire de préciser un peu ce rapprochement.
Eh bien, je voudrais demander à Louis Guillaume quelle est la place qu'occupe précisément ce roman Hans ou les songes vécus dans l'ensemble de son œuvre.
C'est très indiscret ce que vous me demandez. Personnellement, je crois que Hans ou les songes vécus, c'est la somme de moi-même et de mon œuvre. Et au fond, Hans, c'est mon frère, c'est moi-même. Et tout ce qui est dans Hans et qui paraît imaginaire et fantastique est en réalité réel. Il n'y a aucune de ces aventures, aussi extraordinaire soit-elle, qui ne repose sur un fait vrai. Tout est vrai dans Hans. Évidemment, la survie, mais ce que l'on imagine est vrai. Ce que l'on invente et ce que l'on vit, c'est également vrai dans une vie.
Oui, c'est une définition de la poésie, cela d'ailleurs. Et je pense à un autre breton, c'était Max Jacob, qui disait que la poésie était un rêve inventé. Il était étonnant de retrouver sous sa plume, n'est-ce pas, les deux mots que vous employez, rêve et invention.
Max Jacob, que j'ai très bien connu et qui m'a été d'un grand secours, qui m'a conseillé pour mes poèmes et d'une façon extraordinaire, et pour lequel je conserve un culte.
Nous en arrivons à une question qui vous a beaucoup intéressé, je crois que c'est celle du poème en prose. Pourriez-vous nous donner une définition du poème en prose? C'est une question dangereuse que je tente là.
Non, c'est pas tellement dangereux pour moi, puisque j'ai pratiqué le poème en prose et j'ai fait plusieurs conférences là-dessus. Eh bien, on se tromperait en disant, par exemple, qu'un livre comme Les Chants de Maldoror sont un poème en prose.
Tout à fait. C'est
de la prose poétique,
oui,
n'est-ce
oui.
pas? Et c'est là la grande erreur. Certaines gens disent que le poème en prose n'est pas un poème. Mais le poème en prose, dans la conception de Baudelaire, le petit poème en prose est un poème. C'est-à-dire que l'on peut aborder dans le poème en prose des aventures fantastiques, des certaines descriptions même, très brèves, que l'on ne peut pas mettre dans un vers. Et le poème en prose, sous une forme condensée, est vraiment de la poésie. C'est vraiment un poème. C'est un commencement, une fin, c'est un objet qui est fini en lui-même.
Et qui doit être absolument gratuit.
Et qui doit être gratuit, ça absolument. Il doit y avoir ni conclusion morale, ni raisonnement philosophique, de quoi que ce soit.
En somme, dans la formule de poème en prose, ce qui est important, ce n'est pas prose, c'est poème.
C'est poème.
Et c'est poème au sens moderne du terme, c'est-à-dire une réalité particulière qui n'a aucune intention d'ordre logique ou didactique ou autre, et qui n'existe que par elle-même.
Mais bien sûr.
Sachez
bien
que l'on trouve d'ailleurs les deux aspects de la question, la prose poétique et le poème en prose. Je crois prose poétique dans une œuvre comme Une saison en enfer.
Oui.
Un poème en prose dans l'illumination.
Dans certaines illuminations.
Oui, bien sûr, non. Mais Rimbaud est tellement un grand poète que même lorsqu'il fait de la prose poétique, on peut très bien extraire des passages qui sont de parfaits poèmes en prose.
Je crois que vous avez tout de même un attachement pour les vers réguliers.
Oui. J'ai commencé en écrivant des vers tout à fait classiques, à la façon d'Anatole Le Braz, ces poètes bretons. Et puis, évidemment, j'ai eu la révélation Rimbaud, j'ai fait des vers tout à fait libres et même parfois surréalistes, puisque j'ai traversé le surréalisme. Mais maintenant, est-ce un effet de l'âge, je me rapproche de plus en plus d'une certaine forme rythmée, régulière, et je crois quand même que le poème doit être construit et qu'il faut qu'il ait une forme.
Cela doit vous trouver très curieuse. Mais pourquoi avez-vous composé La Nuit parle? Je crois que c'est votre recueil de poèmes en prose qui a obtenu le prix Artaud.
Oui. Mais La Nuit parle, c'est une suite de rêves éveillés et de vrais rêves. Il y en a qui sont absolument authentiques, qui sont des rêves de nuit, des rêves nocturnes, des rêves de la nuit. Mais ça s'étend sur un assez long temps. Et il a fallu que j'écrive cette suite de poèmes en prose comme un prélude à Hans, pour ainsi dire.
C'était une nécessité pour vous que de composer sous cette forme?
Ah oui, je n'aurais certainement pas pu dire ces choses-là en vers, absolument pas. Elles se présentaient sous cette forme en prose, et je pouvais dire des choses très, très réalistes, malgré le côté fantastique de la chose, que je n'aurais pas pu placer dans un poème, ou difficilement.
Alors, le choix du poème en prose, pour vous, relèverait davantage d'un état d'esprit que d'un sujet précis.
Peut-être. Le poème en prose peut quelquefois être une petite histoire, mais ça doit être rare. Il ne faut pas tout de même en abuser, sinon ça devient une petite histoire et la poésie s'en va. C'est trop curieux. C'est un genre très difficile à rédiger.
Et une question qui me brûle depuis très longtemps, presque depuis le début de cet entretien, c'est que, d'une part, nous avons parlé de la mer, et vous avez dit combien la mer était pour vous une source d'inspiration. D'autre part, nous avons très longuement parlé des rêves. Est-ce qu'il y a, pour vous, un rapprochement à établir, une espèce d'unité profonde entre ce monde du rêve et tout ce que vous apporte le spectacle, la communion avec la mer?
Ah, mais c'est absolument vrai, c'est absolument indispensable. J'aurais voulu être marin.
Ah,
n'est-ce pas? Je suis né au bord de la mer, j'ai été élevé au bord de la mer. Eh bien, je n'ai pas pu être marin. Et j'ai vécu tellement longtemps à Paris, loin de la mer. Même ici, à Biarritz, au bord de l'océan, ce n'est pas encore ma mère natale, la mer de mon enfance. Et ce que je ne vis pas, je le rêve. Et toutes les nuits, je rêve que je suis en bateau, que je suis au large, que... Et par conséquent, vous voyez, c'est la toile de fond de toute ma poésie, de tout mon subconscient.
Oui, c'est ainsi que se rejoignent à la fois la vie de l'eau et cette vie secrète qui est une vie aquatique aussi au fond.
Oui, seulement. Oui. Mon élément, c'est comme l'élément de Bachelard. Je suis un homme de l'eau, n'est-ce pas? Mais surtout de l'eau salée, tandis que Bachelard, c'était l'eau douce, lui. C'était l'eau de sa Bourgogne.
Et le combattant du vent, quel rôle joue-t-il dans votre aventure personnelle?
Ah, alors là, ça devient de la psychanalyse. Le combattant du vent, eh bien, j'ai écrit ce poème-là au moment où je prenais ma retraite, où je m'en allais de Paris, et c'est le contact avec cette espèce de liberté que j'allais retrouver au bord de l'océan. J'étais à la fois libre et prisonnier de cette liberté, si l'on peut dire. Et alors, je retrouvais là le vent. Voici le combattant du vent qui se blesse à son propre vide. La vague brisée, il l'envie car il a trouvé sa limite. captif, affrontant son reflet, il mord les barreaux de sa faim. Il connaît si bien ses frontières qu'il préfère fermer les yeux afin de déchirer la nuit. En lui tressaille la prison qui voudrait crever son écorce. Il est le frein de son élan et la faiblesse de sa force. L'univers, ouvert par son cri, le projette vers la tempête qui jalouse les terres franches où l'arbre vole, où vit la mort, et la mer le cloue à sa fuite.
Vous avez prononcé tout à l'heure le nom de Gaston Bachelard, je crois que vous l'avez bien connu.
Oui, j'ai très bien connu Gaston Bachelard, j'allais le voir souvent. C'était un être absolument extraordinaire. D'abord, il avait un visage que l'on n'oublie pas, avec cette chevelure et cette barbe abondante, ses yeux de braise. Et puis c'était un être très bon, qui vous déchiffrait au premier regard, qui savait à qui il avait affaire. Comme d'ailleurs dans n'importe quelle plaquette que lui envoyaient tous les jeunes poètes, fussent-ils même inconnus ou débutants, ils savaient trouver le vers, le fragment qui était le futur embryon du poète qu'il allait devenir. J'ai une grande vénération pour Gaston Bachelard.
Et est-ce qu'il vous a vraiment aidé à vous trouver vous-même par la poésie ?
Eh bien, je crois qu'il trouvait dans mes vers des choses qui me présentaient mes poèmes sous un autre aspect que je l'aurais moi-même. Et il m'a aidé, oui, en effet, à me découvrir.
Nous avons parlé de vous, de votre œuvre. Je crois que l'amitié tient une très grande place dans votre vie. Amitié pour des poètes qui d'ailleurs habitent Biarritz, comme vous-même.
Mm-hmm.
Et peut-être pourriez-vous demander à l'un d'entre eux, Jean-Daniel Maublanc, de porter un jugement définitif sur vous. Nous allons lire ce qu'il dit de Louis Guillaume, son frère affectionné depuis 30 ans, qui a su devenir un très grand poète, simple, grave, sérieux, sans l'ambition de nous transmettre des messages. Dans sa chair circule à la fois la sève des arbres et les vagues de la mer. Dans sa poésie, détachée de sa propre pensée, tous les murmures de la forêt, toutes les tempêtes océanes ne sont plus que des minutes divines, des harmonies suaves et fortes, minutes et harmonies qu'il cherche à rendre avec simplicité, en toute liberté. Entend-il les hommes ? Oui, puisqu'ils sont dans la nature. Il ne les écoute pas. Il cherche leur visage dans le caprice des nuages, dans la mouvance des flots, dans les battements de son cœur. Il était bien au-dessus des jeunes gens du groupe parce que plein d'amour et du don de soi.
Entretien avec Louis Guillaume à propos de son œuvre poétique, une émission de Jacqueline Bellas et Michel Descodins.